Musique Matin, deuxième heure. On est à la Folle Journée de Nantes avec tout à l'heure à 8h30 l'une des habituées de la Folle Journée, la pianiste Claire-Marie Le Guay. Elle ne s'est pas produite depuis 8 mois en public. Comment appréhende-t-elle dans quelques heures ses retrouvailles avec les spectateurs pour son premier concert? Elle sera avec nous, Claire-Marie Le Guay. Et puis une Folle Journée particulière, le plus grand festival de musique classique reporté plusieurs fois en raison des confinements, qui fait face aussi à une enquête pour malversation financière imputée à son ancienne directrice. Comment la ville de Nantes réagit-elle? Nous sommes avec la maire, Johanna Roland, dans ce studio. Elle nous parlera aussi des projets et de la réouverture de ces lieux de culture tout l'été, ici à Nantes.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bienvenue à Nantes, ville de culture et d'art. À l'honneur ce week-end, Bach et Mozart. Mozart, un extrait du 3e concerto pour violon avec Renaud Capuçon, l'orchestre de chambre d'Écosse, dirigé par Louis Langrée. Renaud Capuçon, il sera dimanche à Nantes à la Folle Journée. Concert en direct à 17h30 sur France Musique et sur Arte, présenté par Saskia Deville. Il est 8h11. Bonjour Johanna Roland.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici. Vous êtes la maire de Nantes. C'est la 27e édition de cette Folle Journée, reportée plusieurs fois en raison des confinements. René Martin, le directeur artistique de la manifestation et créateur, y a toujours cru, vous aussi ?
Oui, c'est une magnifique histoire. C'est d'abord la rencontre en 1995 entre René Martin et Jean-Marc Ayrault qui, ensemble, dans cette ville de culture qu'est Nantes, disent « on a quelque chose à inventer ». Et depuis, un succès au sens populaire du terme, jamais démenti. Alors c'est vrai que cette année, ça prend une saveur toute particulière parce qu'on a quand même été privé de culture, orphelin de ces lieux et de ces moments d'émotion. Je sais à quel point les Nantaises et les Nantais, mais plus largement, les habitants sont impatients et heureux de ces retrouvailles, en quelque sorte, avec la Folle Journée. Il suffit de voir à quel point les billets vendus, certes, il faut le reconnaître, en nombre plus réduit que d'habitude, hein, puisqu'on est sur à peu près 9300 billets cette année, en quelques heures, quelques jours, 8000 billets ont été vendus d'emblée.
Mais de toute façon, grâce à nos micros, France Musique est présente, très présente cette édition. Demain et dimanche, 18h d'antenne, 14 concerts qu'on peut écouter dans toute la France sur France Musique et dans tout le monde entier sur francemusique.fr. Madame la maire, on vous retrouve dans un instant. Il est parrain de ce nouveau festival. Philippe Catherine interprète ici une chanson de Michel Legrand, liée à Nantes par Jacques Demy et qu'il y a encore quelques années se produisait ici Michel Legrand en récital au Théâtre Gralin.
Et moi, je joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches. Et moi, je joue des hanches, j'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cor anglais, toi tu joues du banjo. Et moi, je joue contre joue, je joue, c'est fou. Et moi, je m'en fous, je triche, m'en fiche, c'est fou, je triche.
La joueuse, une chanson de Michel Legrand interprétée par Philippe Catherine. France Musique est en direct de Nantes. C'est la folle journée de retour ce week-end, 27e édition. Notre invitée est Johanna Roland, la maire de Nantes. Merci beaucoup d'être avec nous. Maire depuis 2014, réélue l'an dernier. On écoutait ici Michel Legrand qu'on associe à Jacques Demy, l'un des grandes figures de cette ville. J'ai lu d'ailleurs dans votre programme l'an dernier que vous étudiez l'implantation d'un lieu dédié à l'univers de Jacques Demy et au cinéma. Où en est ce projet ?
Il y a sur Nantes un garage qui appartient à la famille de Jacques Demy et notre idée, notre intention, c'est de compagnonner avec sa famille, avec ses proches pour ensemble imaginer comment raconter, partager encore mieux l'histoire de Jacques Demy qui a baigné l'imaginaire nantais. Vous savez qu'on est dans une ville où on est amoureux de la culture et Jacques Demy fait partie, y compris dans son lien avec Agnès Varda, de celles et ceux qui ont contribué à la belle histoire nantaise.
Agnès Varda qui d'ailleurs a filmé cette enfance nantaise de Jacques Demy dans Jaco de Nantes. Ce serait formidable, en tout cas ça ferait venir certainement beaucoup de monde qui aime ces deux grandes figures. Folle journée qui aussi a un impact économique pour la ville. Alors je disais hier dans la presse régionale dans Ouest-France, dans Presse Océan, moins évidemment que d'habitude, mais ça se ressent quand même.
Oui, pour avoir échangé avec les commerçants, les hôteliers, bien sûr que l'envergure est moindre cette année, mais c'est surtout un signe d'espoir. Pour les Nantaises et les Nantais, pour les acteurs, c'est le signe que la vie reprend en quelque sorte. Ce renouveau, ces retrouvailles avec ces moments de culture, c'est vraiment un temps attendu ici à Nantes.
Johanna Roland, comment il se passe ce retour à la vie culturelle depuis 10 jours? Vous pouvez déjà faire un premier bilan?
Ce qu'on sent, c'est vraiment l'envie de cette reprise. Le week-end dernier, j'étais avec Aymeric Cesso, l'adjoint en charge de la culture à Nantes, au lieu unique pour l'exposition l'Université des futurs africaines. Ce week-end, la folle journée, à la fin du mois Atlantide, cet été, le voyage à Nantes et les scènes vagabondes. On sent redoubler l'envie de retrouver ces moments avec, c'est vrai, des contraintes sanitaires et moi je suis quand même très frappé par le sens des responsabilités des acteurs et des actrices culturelles. Et cela, je crois que ça crée les conditions de ces moments de retrouvailles avec une nécessité pour les grandes villes, pour Nantes, mais je pense à mes collègues ailleurs dans le pays, d'anticiper ces moments de reprise. À Nantes, nous avons fait le choix, par exemple, de travailler en amont avec les acteurs culturels, avec une ce qu'on appelle une cellule d'appui et de veille pour dire, OK, comment, avec ces nouvelles contraintes, on s'organise, quels espaces extérieurs pour pouvoir profiter et offrir au maximum des espaces et des lieux de culture.
Vous étiez candidat d'ailleurs pour être ville test pour cette reprise qui finalement donc démarre tout doucement depuis le 19 mai, si je ne m'abuse, ensuite le 9 juin et puis le 30 30 juin, Joanna Roland, il y a un lieu qui doit rouvrir aussi au public. On en parlait il y a une heure avec Alain Suran, c'est le théâtre Gralin. Il nous déclarait qu'il fallait le libérer il y a une heure sans recours à la force. Quelle est ce matin votre position?
Écoutez, d'abord je crois que le gouvernement doit continuer à apporter des réponses aux acteurs culturels. La ministre de la Culture, vous le savez, a annoncé 4 mois supplémentaires sur l'année blanche. Je pense que c'était un premier pas. En revanche, on voit bien sur le terrain qu'un certain nombre de métiers ne réussiront pas à réunir les conditions pour faire valoir leurs droits. Donc je pense que des solutions doivent être trouvées pour que personne ne reste au bord du chemin. Ensuite, à Nantes, en effet, nous sommes attachés à ce qu'il y ait un dialogue et à la fin du mois est prévu à l'Opéra une représentation qui s'intitule « Les Sauvages », qui se fait en lien avec des jeunes d'un grand quartier populaire nantais. Et je suis très attachée à ce que cette représentation puisse avoir lieu. Ça veut dire qu'il faut trouver les bonnes conditions de dialogue et le moment venu de sortie de cette occupation.
Ce serait dommage que ce spectacle avec des enfants des quartiers des Dervalières et du Breil ne puisse pas se produire.
Oui,
parce
mais
que
j'ai confiance occupé. Dans la capacité des acteurs en place. Vous savez, à Nantes, on est attaché à ne pas choisir entre l'exigence de la qualité culturelle et l'ouverture au plus grand nombre. Je sais que c'est quelque chose que nous avons en commun, donc il faut trouver les bonnes modalités de sortie.
Comment la ville a-t-elle accompagné les acteurs culturels depuis 14 mois? Vous avez pu donner des signaux. Alors, il y a les intermittents qui, eux, ont pu bénéficier d'aide, mais il n'y a pas que des intermittents, il y a des théâtres privés, il y a plein d'autres choses.
Nous avons agi de deux manières. D'abord, dans l'urgence. Dès le premier confinement, très vite, nous avons déclenché un fonds de soutien à hauteur de 1 million d'euros pour venir aider, accompagner celles et ceux qui se retrouvaient dans un désarroi absolument profond. Et puis, nous avons pris le temps de travailler sur un plan en 3 étapes, avec à nouveau 1 million de consacrés aux actrices et aux acteurs culturels, mais au-delà de ça, un accompagnement, j'allais dire, quasiment individualisé. La réflexion avec eux sur des petites formes qui pouvaient se produire sur l'espace public. Et puis, regarder aussi celles et ceux qui se retrouvaient un peu en dehors des radars, si vous me permettez cette expression un peu prosaïque. En effet, à Nantes, nous avons fait le choix dans cette deuxième étape de soutenir aussi les théâtres privés, considérant qu'ils concourent à la qualité de l'offre culturelle de la ville, et puis anticiper la reprise. Parce que ce que nous disaient les acteurs culturels, c'est on a besoin des deux. Bien sûr, on a des difficultés économiques, mais surtout on a envie de retrouver les lieux de production, les lieux de création, l'anticipation de la reprise, et aussi tout un élément de cette mobilisation collective qui s'est faite à Nantes, avec notamment des directeurs de structures ou des directeurs. Je pense au lieu unique, je pense à Catherine Blondeau au Grand T, je pense à Eric Boistard à Stéréolux, qui aussi ont joué ce rôle d'aiguillon et d'écoute de la diversité des actrices et des acteurs culturels nantais.
Joanna Roland, et si on écoutait l'Orchestre National des Pays de la Loire, il joue la musique d'un compositeur nantais, il s'appelle Paul Lamiro. Voici La Brière, le printemps.
Thank you.
La musique du Nantais, Paul Lamiro, La Brière, avec l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Hubert Soudan en 1998. C'était un concert avec Triane, cet ensemble également breton, nantais. On est en direct de France Bleu, Loire-Océan, avec Johanna Roland, la maire de Nantes. Je me suis un peu penché sur votre programme de l'an dernier. J'ai vu que vous vouliez faire flotter les couleurs bretonnes sur l'hôtel de ville, ça s'est fait?
Oui, c'est le cas.
Vous avez lancé aussi la construction de Libre Usine, qu'est-ce que c'est?
Un espace de production, de création pour le spectacle vivant. Le spectacle vivant, il est déterminant pour nous dans la qualité de l'offre culturelle. Donc ce projet, il démarre au cœur de Malakoff, un de nos quartiers nantais, avec cette volonté de dédier un espace spécifique à la création du spectacle vivant, parce que les artistes dans notre territoire nous avaient fait comprendre que c'était devenu un besoin. Je suis ravie que ce projet puisse voir le jour. Pour être totalement honnête, on doit l'idée de ce projet à Patrick Digger, qui était jusqu'à peu le directeur du lieu unique, qui a transmis le projet du lieu à Ellie Cummins. C'est aussi une des forces de Nantes de pouvoir fédérer comme ça des acteurs, je crois, très talentueux.
De nouveaux lieux de culture. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Nantes depuis quelques années. L'immobilier est en hausse. Peut-être que la crise, d'ailleurs, a augmenté, cette croissance démographique. Cet attrait pour la ville depuis la crise sanitaire, on est là aujourd'hui à un budget de 8-9 millions d'euros. Est-ce qu'il va falloir augmenter les lieux de culture à mesure qu'il y a de plus en plus de Nantais, tout simplement?
D'abord, si on a une ville dynamique, c'est à la fois effectivement parce qu'on accueille des nouveaux habitants, mais aussi parce qu'on a un taux de natalité supérieur, ouais, à celui du pays. À Nantes, on vit bien et je crois que c'est évidemment un de nos atouts. En effet, nous faisons le choix d'un engagement ambitieux dans le domaine culturel, à la fois avec des grands équipements, vous l'avez évoqué, on pourrait aussi parler du Grand Musée d'Art, avec sa directrice Sophie Lévy et toute son équipe qui sont très mobilisées.
Qui a rouvert après plusieurs années de travaux.
Absolument. On a, avec mon équipe, pris des engagements forts dans ce mandat. Je pense à la gratuité d'usage des bibliothèques que nous avons d'ores et déjà voté dans cette première année de mandat, mis en place. Et puis, des grands projets. Je pense à ce qui se passera sur le Cap 44 avec l'idée d'un lieu dédié demain à un grand musée Jules Verne, mais plus globalement à un site pour l'imaginaire nantais. On est aussi dans la ville des poètes surréalistes, dans cette ville où...
Faut rappeler que Jules Verne est né à Nantes,
L'imagination est très présente. Vous évoquiez les grands événements, on pourrait parler des utopiales. Moi, je suis très attachée à cette idée que la culture s'écrit avec un S. Et que cette diversité, cette pluralité culturelle, elle doit nous permettre d'aller toucher le plus grand nombre.
Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé quand même. Cette folle journée, elle a été reportée plusieurs fois pour des raisons sanitaires. C'est une folle journée qui a traversé une certaine tempête. C'est encore en cours, une affaire avec des accusations de malversation financière imputées à l'ancienne directrice de la société économique mixte, parce qu'il y a deux sociétés. Il y a la direction artistique, le CREA, avec le créateur de la folle journée, le directeur artistique René Martin. Et puis il y a cette société qui met en œuvre tout pour le bon déroulement de la folle journée. Joël Kerivin, donc accusé de malversation financière, vous avez porté plainte, où en est l'enquête aujourd'hui?
Écoutez, peut-être d'abord vous dire qu'à la ville, nous avons découvert cette situation avec stupéfaction et avec colère. Parce qu'avec l'argent public, on doit être évidemment exemplaire. Donc désormais, cette affaire est entre les mains de la justice, qui doit faire toute la lumière sur ce qui s'est passé.
À suivre donc. Dernière chose, Royal de Luxe, c'est aussi un emblème nantais. Là aussi, dans l'imaginaire, cette grande compagnie emblématique de la ville, de spectacles de rue dans les quartiers. Il paraît qu'il y a une installation mystérieuse à venir. Vous êtes dans le secret, vous?
Oui, c'est vraiment une très belle idée que Royal de Luxe nous a proposée et qu'avec Bertrand Affilé, le maire de Saint-Herblain, nous avons retenue. Celle d'un vrai compagnonnage. Pas un petit tour une fois dans un quartier. Non, un travail au temps long, dans l'immersion d'un de nos grands et beaux quartiers populaires nantais. Amener l'ambition, l'excellence, la dimension internationale de Royal de Luxe au cœur de ce quartier. Cela dit aussi l'ambition qui est la mienne pour la politique de la ville à Nantes et d'une manière générale. Avec tout un travail qui a été fait dans les écoles, de nombreux enfants qui ont pu découvrir à cette occasion le travail de Royal de Luxe. Et je crois que c'est très important que dans des villes comme les nôtres, il puisse y avoir des acteurs culturels de proximité. Et dans ce quartier, ils sont nombreux. Je pense à des acteurs comme C-West, à celles et ceux qui au quotidien travaillent avec les jeunes de ces quartiers. projet, et puis qu'à un moment donné, la rencontre avec l'inattendu, avec ce qui surprend, avec ce qui interroge, ce drôle de personnage de Monsieur Bourgogne, inventé par Royal Deluxe, vienne éveiller la sécurité. Parfois, on m'a dit, mais vous croyez pas que dans ces quartiers, on a besoin de sécurité et pas de culture? Eh bien, moi, je crois qu'on a besoin des deux.
Et parfois, les deux vont ensemble. Cité des artistes, Nantes, merci beaucoup, Johanna Roland. Bonne folle journée. Il y a un piano dans ce studio. J'ai vu que vous aviez pianoté. Vous avez fait de la musique.
J'en ai fait avec une grande dame qui s'appelait Linda Indart, qui était une pianiste qui venait d'Uruguay. Mais j'ai beaucoup oublié, pour être honnête.
Merci, Johanna Roland, maire de Nantes. Et on se quitte avec un autre Nantais, c'est Raphaël Sévère, clarinettiste. D'ailleurs, il n'est pas Nantais, il est né à Vertoux, comme vous. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Raphaël Sévère avec Paul Montag dans cette danse des clochettes de Léo Weiner. Raphaël Sévère qui est très présent ce week-end à la Folle Journée de Nantes, concert demain matin et dimanche matin sur France Musique.
France Musique, en direct de la Folle Journée de Nantes.
Et c'est une habituée, une fidèle qui est à présent avec nous, l'une des plus grandes pianistes françaises. Bonjour Claire-Marie Leguet.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Cet après-midi, vous jouez, c'est à 13h30 avec le Paris Mozart Orchestra dans la grande salle, le grand auditorium. Il y a beaucoup moins de salles que d'habitude pour cette folle journée. Moins de concerts, moins de billets. Vous serez dirigé par Claire Gibault, Jean-Sébastien Bach. Claire-Marie, depuis quand n'avez-vous pas joué en public?
Depuis le 1er octobre. Voilà, ça fait donc 8 mois, et c'est bien sûr une très très grande émotion que d'être à nouveau tout à l'heure sur scène en public. C'est une pensée qui ne me quitte pas. Vous savez, je pense que c'est un peu comme retrouver quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc à la fois, on ne s'est pas quitté par la pensée, mais en même temps, on ne s'est pas vu depuis longtemps, on n'a pas partagé... ces instants de grâce, comme le dit le titre de la folle journée cette année, le nom de la folle journée, et en même temps cette mise à nu qui est le fait d'être sur scène, donc c'est pas rien.
Dans votre livre « La vie est plus belle en musique » paru en 2018 chez Flammarion, vous parliez de ce partage d'une passion, mais une vie qui est faite de la préparation, d'un concert, d'être sur scène, d'avoir le trac. Tout ça a disparu, le trac vous a manqué?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça a disparu. Je réponds un peu en vrac, mais je ne sais pas si le trac m'a manqué, mais là, il est bien, bien présent à nouveau. Ensuite, je ne sais pas si tout a disparu, parce que, comme vous le disiez, c'est vrai ce que j'écris, c'est ce que j'écris dans le livre, la présence du public est là à travers le travail, c'est-à-dire que dès que je suis à l'instrument, je suis dans la projection, on est tous les musiciens, nous sommes dans la projection de ce que va être le concert, de ce que va être la présence du public.
Mais là, c'était pas possible.
Oui, mais la projection était quand même là. D'accord. De toute façon, toute préparation est dans la projection du moment de la rencontre. Et je pense que effectivement, cette reprise des concerts, c'est le retour à l'autre. Et il me semble que cette si longue interruption, cette interruption douloureuse que nous avons vécue, de ne pas nous sentir essentiels, voilà, toute cette remise en question qui a pu avoir pendant tous ces mois. Et bien est source d'humilité, je pense, d'humilité, de renaissance d'une certaine façon.
Et quoi de mieux que Bach pour la renaissance?
Absolument.
Bach cet après-midi et Bach ce matin sur France Musique avec Claire-Marie Leguet. Le premier mouvement du concerto italien de Jean-Sébastien Bach avec Claire-Marie Le Guay, notre invitée ce matin en direct de Nantes. C'est le début de la folle journée. C'est les retrouvailles, on en parlait avec le public. Concert tout à l'heure à 13h30. Bach, donc un concerto pour clavier avec le Paris Mozart Orchestra dirigé par Claire Gibault. Claire-Marie Le Guay, je le disais, vous êtes une fidèle de la folle journée. Quels sont comme ça des souvenirs qui vous reviennent de cet événement très particulier cette année, mais on croise beaucoup de monde, il y a des concerts où ça fuse un peu partout, il peut y avoir 10 concerts en même temps dans 10 salles différentes simultanément.
Pour moi, la folle journée, c'est la vie. C'est vraiment le grouillement du croisement des artistes, du public, des générations différentes qui sont là, qui sont présentes. C'est la joie du partage de la musique, la joie de cet événement qui nous réunit et qui est à la fois, je crois, un grand rendez-vous pour le public, un grand rendez-vous pour la ville de Nantes, un grand rendez-vous pour les artistes. Et c'est ce mélange de toutes ces énergies qui est si particulière et qui nous lance en fait. Je pense que c'est un terreau, c'est un rendez-vous pour chacun chaque année et voilà. C'est très très important.
Artistes qui parfois, notamment les pianistes, sont un peu seuls avec leur récital. Là, vous pouvez vous croiser et aller écouter vos amis, vos collègues. C'est un événement qui s'est réinventé plusieurs fois pour des raisons sanitaires. René Martin, le directeur artistique, avait d'abord prévu une première édition début janvier, ensuite un peu plus tard. Voilà. Mais vous aussi, vous êtes directrice artistique, Claire-Marie Le Guay, c'est DINAR, c'est ce festival international de musique qui a lieu en juillet. Vous aussi, vous avez dû tricoter, redétricoter pendant des semaines et des mois?
Oui, absolument. Et avec l'expérience de l'année dernière, ce tricot en fait prend des formes différentes au fil des mois que nous a appris des formes différentes au fil des mois que nous avons traversées, avec une expérience qui s'acquiert, avec voilà cette distanciation sociale que l'on connaît, les règles sanitaires qui permettent de revenir à un possible progressif. Et bien sûr, j'ai une immense reconnaissance pour René Martin qui fait partie de ceux qui se battent et qui défendent la musique et qui font tout pour qu'elle existe. À une autre échelle, c'est aussi ce que j'essaye de porter à DINAR, de rendre possible ce rendez-vous avec le public, de proposer un programme varié qui permette à chacun d'écouter des concerts avec des répertoires très différents, allant de Bach au jazz.
Du 12 au 18 juillet, dans plusieurs lieux de la ville, au Palais des Arts, au Théâtre de Bussy. Donc, à DINAR, Claire-Marie Le Guay, ce festival dont vous êtes la directrice artistique. On parlait de Jean-Sébastien Bach, que vous jouez tout à l'heure, qu'on a écouté à l'instant. Vous êtes revenu pendant ces 12, 14 derniers mois à Bach. À quelle musique, dans quelle musique vous êtes-vous réfugié?
Oui, Bach en trop, j'ai envie de dire Bach toujours, Bach est la racine, Bach est l'arbre qui puise dans la terre et qui nous élève, et aussi tous les autres, Schumann, Liszt. Je pense que voilà, cette période était le reflet de ce que je suis, c'est-à-dire vraiment puisant dans un répertoire très large et me nourrissant des oppositions et des complémentarités des répertoires et des époques.
Claire-Marie Le Guay, vous avez un cadeau pour nous ce matin. Vous avez cité Franz Liszt. C'est pas la première fois que vous l'enregistrez. Si je compte bien, c'est votre 4e disque consacré au compositeur hongrois. Alors, il ne sort qu'en septembre. N'allez pas chercher ni dans des magasins, ni sur des plateformes. Mais on va en écouter un premier extrait. Ce retour à Liszt, il était prévu. Il a été de circonstance.
Je pense que ça fait partie des retours importants. Retour au public, retour à Liszt, retour à l'essentiel, retour aux racines. Liszt est essentiel pour moi. Liszt à la fois le pianiste, le virtuose, la personnalité, le penseur, le religieux. Et si vous voulez, je peux juste lire une citation de Liszt qui, à mon avis, dit bien ce que nous avons sans doute tous traversé et l'émission en particulier. Voyez-vous, mon piano, c'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate. Ce qui est à l'arabe son coursier, plus encore peut-être, car mon piano jusqu'ici c'est moi, c'est ma parole, c'est ma vie, c'est le dépositaire intime de tout ce qui s'est agité dans mon cerveau aux jours les plus brûlants de ma jeunesse. C'est là qu'ont été tous mes désirs, tous mes rêves, toutes mes joies et toutes mes douleurs. Thank you.
C'est le cadeau de Claire-Marie Le Guay ce matin pour vous sur France Musique. La deuxième consolation de Franz Liszt qui sortira chez Mirare en septembre. Claire-Marie Le Guay, Liszt est aussi, en plus de tout ce que vous avez dit tout à l'heure, une consolation.
Oui, Liszt, j'ai envie de dire que Liszt c'est tout. Liszt c'est la passion, la tendresse, la foi, la réflexion, l'écriture, le piano, le public. Liszt incarne vraiment toutes les facettes les plus extraordinaires, les plus expressives de la vie de musicien. Et ce disque, donc, en fait, est axé autour du thème de la mort, de l'amour et de la consolation. Et donc, je pense que, voilà, c'est vrai que j'ai traversé cette période avec Liszt, tout particulièrement, avec cet enregistrement qui a eu lieu en décembre. Et puis, en fait, c'est ce répertoire qui, à travers la mort d'Isolde de Wagner Liszt, les six consolations, au bord d'une source, des œuvres qui touche vraiment à ce qu'on a traversé, à la fois des phases de profonde douleur, des moments d'apaisement, des moments où le temps est suspendu. Tous ces contrastes sont présents dans ce programme.
Disque à découvrir en septembre, disque enregistré d'ailleurs pendant cette période, en décembre dernier. Je voudrais qu'on revienne pour finir à ce livre, ce très beau livre paru chez Flammarion en 2018, La vie est plus belle en musique, avec aussi une réflexion sur la musique, sur son rôle. Est-ce que vous écririez la même chose aujourd'hui, après cette épreuve?
Je pense que je l'écrirais 100 fois plus. Enfin oui, vraiment, pleinement. Je créerai sans doute autre chose, mais en tout cas, je pense que le sens de ce livre, le sens de ce message, La vie est plus belle en musique, oui, alors là, vraiment, il est redoublé, quintuplé.
Retour à la vie avec Bach tout à l'heure, ici, à la Folle Journée, Claire-Marie Le Guay. Premier concert depuis 8 mois, et puis après, ça n'arrête pas. Vous serez avec Agnès Jaoui pour le concert-spectacle Des Malheurs de Sophie, dimanche à Auvers-sur-Oise, le 4 juin, donc la semaine prochaine à Rion, à Sens avec Marc Copé le 19 juin, et puis on vous retrouvera plus tard au cours du mois de juin au Chênay, à Sous pour Sous chante Mozart début juillet, ensuite à Dinard pour votre festival international de musique de Dinard, et mon petit doigt, il est là, me dit que vous serez peut-être aussi à la Roque d'Anthéron. Merci beaucoup Claire-Marie Le Guay.
Merci beaucoup à vous.
On a commencé avec Bach, c'est logique, on se quitte avec Mozart. C'est court, c'est le rappel du thème à la toute fin de cette 13e sonate de Mozart interprétée par Claire-Marie Le Guay. Grand merci Claire-Marie.
Merci beaucoup.